se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 6,49€.
À ce prix-là, j'invite mes amis à dîner demain soir. Je vais leur faire ma recette de dorade au four.
J'en connais qui vont se régaler comme des rois.
Vous voulez venir ?
Ah bah oui ! Auchan, avec plaisir. 6,49€, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon. Élevé en Grèce, pièce de 300 à 600 grammes. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, la suite des réjouissances dans les GG puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi. Ce soir sur BFM TV à 21h, il y a le débat entre Jordan Bardella pour le Rassemblement National, la tête de liste Rassemblement National, et Valérie Ayer qui est la tête de liste pour la majorité actuelle. C'est à 21h sur BFM TV, ce sera mené, orchestré par Benjamin Duhamel. Benjamin va venir tout à l'heure dans les GG à 11h20 nous expliquer comment il prépare ce débat, ce face-à-face, justement. Alors c'est vrai que comme ça, ça paraît un peu déséquilibré, vu comme ça, parce qu'on a les dernières prestations de Madame Ayer ne sont pas très convaincantes face à une machine médiatique aujourd'hui qui est le jeune Bardella.
Oui, mais donc, qu'on accuse de se planquer, voilà. C'est-à-dire de ne pas aller dans le fond des dossiers.
Et d'esquiver un peu les questions.
Donc, est-ce que Madame Ayer va réussir à bousculer Jordan Bardella et peut-être le pousser aussi face à ses contradictions?
Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure avec vous d'ailleurs, aussi au 32-16 à 11h20 avec Benjamin Duhamel. En attendant, c'est pas qu'on fasse mine de découvrir la mer dans les GG quand on nous dit que les trafics continuent en prison, mais on peut quand même être un peu étonné de voir quel trafic continue. Trafic de drogue, et puis là c'est des arnaques avec les téléphones portables où des gens de l'intérieur des prisons arrivent à arnaquer des citoyens, des arnaques bancaires quasiment. C'est Audric qui va en parler avec nous, qui est dans les Landes. Bonjour Audric.
Oui bonjour, les grandes gueules.
Parce que vous avez fait un an de prison.
Oui c'est ça, c'était en 2012.
En 2012, et effectivement, on laisse passer les portables et autres. On vous laisse faire ou pas, Audric?
On laisse pas faire. Bien sûr qu'il y a des fouilles pour les téléphones portables. Ils font des fouilles à peu près une fois par mois. Mais bon, les détenus, ça vous cache les téléphones. Et après, pour tout ce qui est de la drogue, ils sont, pour moi, de mon avis, ils sont au courant. Ils laissent passer pour la paix sociale dans la prison parce qu'ils savent que s'il y a pas de drogue, il y a des bagarres en promenade. Les détenus sont virulents. Donc c'est surtout pour eux, pour la sécurité même.
Oui, on fume beaucoup de cannabis en prison.
Exactement.
Ouais, pour être étanché, quoi.
Mais les téléphones aussi, on les laisse passer, Audric. Hein.
Les téléphones.
Mais alors attendez, quand on dit on les laisse passer, c'est-à-dire ils passent comment les téléphones, Audric?
Les téléphones, ils passent au parloir, hein, ils sont ramenés par les familles ou ils sont jetés par-dessus les murs.
Mais il n'y a pas de fouilles ensuite quand vous rentrez en cellule?
Il y a des fouilles quand vous rentrez en cellule. Mais vous savez, quand vous passez, vous allez au parloir une fois par semaine pendant un an, vous savez, duper les surveillants. Hein.
Mais je crois que les fouilles systématiques sont désormais interdites. Hein.
Pardon?
Moi, je sais qu'en 2012, déjà, les fouilles à nu étaient interdites, mais on nous mettait à nu. Et malgré ça, ça n'empêchait pas les téléphones et la drogue de rentrer. Hein.
Oui. Mais Audric, donc le téléphone qui rentre, c'est un téléphone avec lequel vous avez Internet, vous pouvez tout faire ou pas, Audric?
Ça dépend de quelle catégorie de téléphone vous avez. Si vous avez un smartphone, bien sûr, vous avez accès à tout ce que vous avez accès en dehors. Et si vous avez un téléphone lambda qui fait juste appel et message, vous pouvez appeler dehors et passer des messages.
Oui. Et alors, du coup, vous en avez eu un?
Oui, j'ai eu accès, oui.
Et alors, vous faisiez quoi avec votre téléphone, alors, Andric?
Ben c'est les contacts à la famille. Moi c'est pour mon cas, hein, les contacts à la famille, les contacts pour régler selon dans quoi, pourquoi vous êtes là. Mais après il y en a beaucoup qui en font un mauvais usage, d'où justement les trafiquants qui eux continuent à gérer.
Donc vous étiez témoin de trafiquants qui continuaient de mener leur petit business de leur portable, quoi, en fait.
Mais bien sûr, ça tout le monde le sait.
Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que vous nous parlez de 2012. Et comme apparemment, enfin je crois, que ça ne va pas en s'arrangeant,
non,
me semble-t-il, alors j'imagine bien ce que ça doit être en 2024.
Il y a 10 ans, il me semble que les prisons étaient surpeuplées à 64 000 détenus, et je crois qu'aujourd'hui on est à
73
000. 73 000.
Voilà, on est à 10 000 détenus, ouais, de plus, donc voilà, les prisons sont encore bien.
On a un taux d'occupation de 127%.
Les fouilles corporelles intégrales systématiques des détenus sont interdites par la loi.
Depuis quand?
Depuis 2009.
Depuis longtemps.
Depuis 2009.
Il me semble que c'est depuis 2009, mais c'est toujours pratiqué. Il y a des surveillants qui les pratiquent toujours. Hein. On vous fouille, on vous met à l'écart de votre cellule et
on ne le fait pas tous les jours. Enfin, on ne le fait pas à chaque visite. Voilà.
Fouille intégrale, j'entends bien finalement. Je comprends ce que vous voulez dire par là. Mais la fouille, quand vous rentrez en cellule, on ne vous palpe pas de façon très serrée quand même?
Quand vous passez au parloir, il y a un portique. Il y a un portique qui est censé détecter tout ce qui est métaux qui rentre.
Un couteau céramique, ça sonne pas. Hein.
Oui. Donc déjà, les téléphones, normalement, sont censés sonner. Mais après, avec les années, les détenus et les complices à l'extérieur ont appris à enlever les ferrailles des téléphones. Du coup, le téléphone ne sonne plus dans les portiques. Du coup, tout passe.
D'accord, mais il sonne plus. Mais il faut bien qu'il se soit mis quelque part dans une poche ou dans quelque chose.
Barbara,
oui, d'accord, j'ai compris.
Je pense que Barbara, il n'y a pas besoin de dessin, il me semble.
Oui, mais tu vas pas mettre un portable. Tu vas pas mettre un smartphone
Ce qui est marrant,
c'est. Tu vois, il dit non.
Il y a des téléphones qui font la taille d'un plug anal.
Ben oui, les petits Nokia, mais pas un smartphone.
Après, vous savez, il y a d'autres méthodes. On peut faire des Selon les prisons, il y a des colis qui sont jetés par-dessus les murs.
Voilà.
Il y avait des drones aussi, je crois. Il y a des. On a parlé de distribution de drones il n'y a pas longtemps.
Mais concernant les fouilles systématiques, ce qui est intéressant, c'est que c'est la droite au pouvoir, Rachida Dati et Michel Alliot-Marie, qui avaient limité le recours aux fouilles intégrales systématiques. Et quand la gauche est revenue au pouvoir ensuite, Jean-Jacques Urvoas, à l'époque garde des Sceaux, avait voulu justement remettre plus de fouilles parce qu'il voyait bien qu'on faisait passer tout et n'importe quoi.
Heureusement que tu reparles de Jean-Jacques Urvoas.
Non, mais c'est intéressant ces débats, c'est pas forcément.
Non, mais c'est pour ça que, franchement, la mythologie de les années Sarko, c'était dur, c'était. Non, mais.
Ah non, il a défoncé
le sarkozisme. Le sarkozisme a posé les jalons de toute la catastrophe.
Mais non, parce
que vous dire dans tous les domaines.
Blanquer a supprimé les postes.
C'était déjà macronisme.
Mais bien sûr, rappelez-vous l'ouverture et toutes ces âneries.
Sarkozy préparait son après-mandat. Parce que Sarkozy, aujourd'hui, c'est quasiment des plus grands multicondamnés français. Donc il préparait son après-mandat.
Il est présumé toujours innocent.
Non, il était condamné.
Audric, finalement, dans un instant, on va écouter Ludovic qui est avec nous, qui est surveillant pénitentiaire. Mais. De cette année de détention que vous avez fait, vous êtes allé en prison pourquoi, Audric, vous?
Je préfère rester personnel.
D'accord.
Oui.
Bon, mais cette année de détention.
Je vais même aller plus loin. Vous savez, moi, quand j'ai passé un an de détention, j'ai même vu des surveillants prendre part au trafic de drogue.
Oui, ben ça suffit.
Ah oui, ça existe aussi. Les surveillants corrompus.
Même les surveillants, ils peuvent rentrer les téléphones, ils peuvent rentrer ce qu'ils veulent. C'est toujours pareil.
Ça a toujours existé.
De toute façon, en payant si mal ces surveillants,
c'est comme les flics ripoux, il y en a toujours eu.
Exactement.
Ça reste une minorité quand même, parce que par ailleurs, leurs conditions de travail sont épouvantables.
Ils sont sous-payés, à un moment donné, les mecs.
Oui, ne justifiez pas non plus le trafic.
Excusez-nous, nous aussi, on est sous-payés, on ne fait pas du trafic de drogue à l'Éducation nationale.
Attendez.
Les conditions de travail sont sont pas faciles pour eux, mais parce qu'ils ont des prisons surpeuplées, ils sont pas assez surveillants, donc forcément les conditions de travail sont pas faciles pour eux aussi. Hein.
Mais du coup, vous êtes ressorti de cette année de prison, ce que je veux dire, vous vous en êtes sorti, vous avez survécu, c'était dur, ou vous vous êtes arrangé, dites-moi alors.
Ah, moi je pense que on est des êtres humains, l'être humain s'habitue à tout. Et à partir du moment où on s'habitue, on s'habitue à l'enfermement, on s'habitue à tout ça, et c'est une habitude. Après, on prend l'habitude d'avoir 2 heures de liberté par jour dans la journée, et c'est tout, quoi.
Et est-ce que justement, sur votre temps de détention, on vous a proposé des activités professionnelles, des activités de formation?
Bien sûr.
Et est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous poussait à avoir des activités à l'extérieur de votre cellule?
Ah oui, c'est sûr, on pousse les détenus à avoir des activités en dehors de la cellule.
Alors Ludovic, Audric, je vous remercie d'avoir été avec nous. Ludovic qui est surveillant pénitentiaire, qui est là. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Bonjour, vous nous appelez du Lot-et-Garonne. Alors c'est vrai qu'on est surpris sans l'être, mais les gars qui avec leur portable mènent depuis la cellule de Fresnes et de la Santé leurs petites arnaques, on s'interroge quand même, Ludovic.
On s'interroge, moi ça fait 14 ans aujourd'hui que je fais ça, donc on sait un peu comment ça se passe. L'administration a installé des cabines téléphoniques en cellule pour que les détenus puissent appeler leur famille, leurs proches, H24 si vous voulez. Et le problème, c'est que dans ces cabines-là, pour quelques euros de plus, l'administration aurait pu faire installer des brouilleurs dans chaque cellule et l'administration a refusé de les installer. Donc forcément, l'administration achète, entre guillemets, la paix sociale pour que les détenus puissent utiliser des téléphones portables.
En fait, voilà. Ça arrange tout le monde.
Voilà.
Ben, ça arrange certainement c'est l'administration quand même.
Oui, mais enfin, vous voyez, quand même, il y a cette affaire d'escroquerie. Donc là, du coup, il y a quand même des victimes à l'extérieur, victimes de gens qui sont censés être enfermés, sanctionner et ne plus nuire à la société.
Et je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, c'est l'administration qui doit répondre de ça. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faudrait entendre maintenant la direction de la santé, la direction de Fresnes, pour savoir ce qu'ils pensent de ça.
D'accord, mais Ludovic, même si vous rendez l'administration en partie responsable, il y a aussi le travail du surveillant. Quand il fouille les cellules, s'il trouve des portables, il les enlève, il les confisque.
Oui, mais je vais prendre le cas de Fresnes, puisque j'y ai travaillé pendant quelques années. Vous êtes un surveillant pour 120-130 détenus. Ils sont trois dans des cellules de 9 mètres carrés. Donc quand vous faites une fouille de cellules, ça devient compliqué à un moment donné de trouver tout ce qu'il faut, puisque vous avez un quart d'heure, 20 minutes pour fouiller 9 mètres carrés où il y a trois habitants à l'intérieur.
Moi j'entends Ludovic, mais j'imagine Ludovic là, le mal-être qu'il doit ressentir quand il voit ça sortir dans les médias et qu'après on dit tout le monde sorte. Bah, regardez les mecs en prison, ils sont plus heureux que dans leur vraie vie et que les surveillants de prison ils les laissent faire et qu'on peut même parler certains, enfin ils doivent être vraiment, ils sont un complice ou voilà. Moi j'imagine que vous dans votre boulot que vous essayez de faire correctement pour un salaire qui est dégueulasse. Parce que moi je me rappelle j'ai un pote on avait passé le concours ensemble. Moi j'avais pas été au bout parce que je m'étais fait planter sur l'épreuve physique, mais il avait fait passer un concours des années 90 et c'était déjà hyper mal payé. Je crois qu'on était à l'époque à 5007 ou 6000 balles, je crois.
6000 francs de l'époque.
6000 francs, ouais.
Quand même, ouais, oui, allez-y.
Aujourd'hui, au niveau salaire, puisque vous en parlez, là maintenant, depuis le 1er janvier, on est passé en catégorie B, donc on gagne un petit peu plus. Enfin, moi, 14 ans de service, je gagne un peu plus de 2000 euros par mois.
Bah oui, mais pour les conditions de travail que vous avez, c'est rien.
Mais c'est rien,
avec les horaires, etc. Enfin, la vie de famille
Et en plus, ce qui est très intéressant de bien entendre, c'est le ratio surveillant nombre
De détenus. Hein.
Mais oui. Écoutez, qu'est-ce que c'est un aide-soignant à l'hôpital? Combien il a de gens à traiter? Tout est comme ça, tout par rapport.
Je posais la question grande.
Et les juges, pareil.
D'accord. Mais vous me répondez franchement. Est-ce que vous fermez les yeux sur certaines choses que vous voyez, certains trafics pour avoir la paix?
Moi, personnellement, non. Mes collègues le savent et les détenus aussi, puisque, vous savez, en prison, les surveillants, ils ont tous un surnom. Et le mien, c'est le douanier dans l'établissement dans lequel je travaille parce que je fais trop de saisies dans les cellules.
Ouais. Mais certains de vos collègues
mais
le font.
Mais du coup, ça montre que d'autres collègues ne le font pas. Est-ce que vous avez justement des problèmes avec d'autres collègues qui vont considérer que vous faites trop de zèle?
Alors moi, personnellement, j'en ai pas, mais certainement que d'autres l'estiment, oui.
Et vous êtes récompensé au moins pour tout ce que vous faites comme travail? Est-ce que fait que, par exemple, vous saisissiez plus fait que, par exemple, vous pouvez avoir des primes ou de la reconnaissance de votre hiérarchie?
Les primes, c'est impossible à avoir. La reconnaissance de la hiérarchie, c'est comme tout le monde. Hein. Quand vous faites quelque chose de bien, vous avez la reconnaissance éternelle de votre supérieur.
D'accord.
Voilà, c'est ça.
Une tape dans le dos.
Merci Ludovic d'avoir été dans les GG, monsieur le surveillant pénitentiaire. Merci, merci à vous. Claude, bonjour.
Oui, bonjour Alain.
Un dernier témoignage avec vous, Claude, parce que votre fille a été victime de cette arnaque, dites l'arnaque du halo avec la banque. Tout à fait. Comment ça s'est passé?
Ça s'appelle aussi l'arnaque au faux conseiller. Mmh. C'est-à-dire que moi, ma fille, c'est simple, ils ont appelé un soir en se faisant passer pour la gendarmerie de mon village, sachant que ma fille est étudiante à Nantes avec son appartement.
D'accord.
Donc, état de stress, bien sûr, pour ma fille, parce que moi, étant sur la route, elle a cru que j'avais eu un problème sur la route ou ma femme ou quoi que ce soit. Donc, un peu de stress et tout, et ils se font passer pour la gendarmerie en disant qu'un quart d'heure après, il va y avoir quelqu'un qui va l'appeler au niveau de la banque, son conseiller, parce qu'il y a des mouvements frauduleux sur son compte. Donc, sous l'étudiante un peu stressée, comme je le suis là, elle attend le coup de téléphone du conseiller, le conseiller l'appelle, et bizarrement, le conseiller a quand même beaucoup de données personnelles et de coordonnées. C'est-à-dire que, à savoir, moi c'était le LCL, à savoir que le LCL en 2021 s'est fait pirater des données personnelles de sa clientèle. Et donc pour moi, ils ont automatiquement des complices à l'extérieur.
Ah oui.
Parce que c'est obligé, parce que ma fille, si vous voulez, il savait trop de trucs sur nous et sur ma fille, étant étudiante à Nantes. Ce qui fait qu'elle a pris conscience, ils jouent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à établir une relation de confiance avec leur arnaqué. Et à un moment donné, ma fille, c'est simple, elle m'a dit, écoute, papa, ça a duré une heure et demie, j'ai eu l'impression que ça durait que 10 minutes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vous mettre la tête à l'envers. Ouais, et à un moment donné, ma fille, je lui dis, tu vas quand même pas donner tes numéros de carte bancaire, tes numéros de carte bleue. Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est qu'ils nous mettent tellement en confiance qu'à un moment donné, c'est eux qui nous donnent un numéro de compte. Et en fin de compte, ils rentrent dans un système où ils mettent leur argent sur ce faux compte IBAN. Et donc, ils arrivent à retirer jusqu'à ce que le plafond soit atteint.
Et combien, elle s'est fait arnaquer de combien, votre fille, alors?
À peu près 1000 euros, un peu moins de 1000 euros.
Tout ça pour 1000 euros?
Ben oui, mais tu multiplies.
Incroyable.
Ils les comptes, c'est-à-dire qu'ils le font en deux fois. Comme c'est des prélèvements directs, automatiques, ils font en dessous de 1000 euros. C'est-à-dire que moi, elle a fait un premier de 545, je crois, un deuxième de 400 et quelques, c'est en dessous des 1000. Et à un moment donné, ils posent la question fatidique de est-ce qu'on va faire un dernier virement? Et là, comme par hasard, c'est tout rond, c'est 300. Et là, vous dépassez le plafond. Ça passe pas. Bon, ben, je vous rappelle dans 5 minutes, vu que c'est pas passé. Et il rappelle jamais. Et là, ma gamine a compris qu'elle s'était fait arnaquer. Donc, coup de téléphone, et en plus.
Et on a retrouvé les arnaqueurs ou pas?
Alors, bien sûr que non. On a été porté plainte à la gendarmerie. Bon, la gendarmerie fait son travail. Peut-être que c'est les deux que vous avez.
C'est peut-être.
Claude, écoutez, merci. Vous avez été remboursé? Vous avez pu être remboursé ou pas?
C'est une bataille, pour passer par les médiateurs, parce que l'agence, bien sûr, ne veut rien savoir. Donc, il a fallu qu'on passe par le médiateur et on a obtenu à peu près 50% de remboursement, ce qu'ils estiment qu'il y a une part de responsabilité de l'étudiante, ce qui est normal, et également de la banque qui ne protège pas assez ses clients. Voilà.
Merci Claude, merci de cet exemple. Donc soyez vigilants, faites attention quand vous recevez des coups de fil en vous disant voilà, il y a un souci avec votre carte.
On reçoit des messages quasiment tous les jours
de
faux messages de banque ou autre.
Non, moi je reçois des messages de ma banque où quand j'ouvre mon application bancaire, j'ai d'abord soyez vigilants les arnaques au téléphone.
Mais de toute façon, tout numéro de téléphone que je ne connais pas, je réponds pas.
Ouais, moi aussi.
C'est pour ça que tu me réponds jamais.
Ouais.
merci de ces témoignages, de vos témoignages. Allez, dans un instant, notre camarade de BFM TV, Benjamin Duhamel, pour nous parler du duel qu'il va arbitrer ce soir à 21h. Jordan Bardella pour le Rassemblement National face à Valérie Ayé, la candidate de la majorité.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le pote, ouais. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Frédéric Farah, professeur d'économie. Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie. Bruno Poncé, professeur de grève. Cheminot et syndicaliste, qui est avec nous aujourd'hui dans les GG.
Doctorant,
en attendant, juste un petit mot, parce que en attendant que le printemps arrive, je vous conseille la lecture d'un super livre signé Big T. Big T s'appelle Thierry, il est maître français du barbecue. Sort aux éditions Marabout, l'art du barbecue.
Génial.
Matériel, cuisson, recettes.
Avec une très jolie préface de Sandrine Rousseau.
Oui. Et une face de Barbara Lefebvre.
Vous apprendrez, mais ne rigolez pas parce que vous apprendrez notamment que le barbecue, c'est pas que la viande, qu'on peut aussi griller, braiser des légumes.
Oui, des légumes, voilà, j'allais le dire.
Ça y est,
c'est très
et
bon,
si
les
vous êtes
braisées.
Du côté des Alpes-Maritimes, il a son académie du barbecue,
du
Big T, Thierry. Elle est à Saint-Janet. Allez profiter de son savoir-faire et de ce qu'il sait cuisiner, l'art du barbecue, pour de Big T aux éditions Marabout. À qui je l'offre? Qui le veut?
Oui,
j'allais dire. Bah, le cheminot est syndicaliste, le barbecue.
Benjamin Duhamel aurait aimé.
Attendez. Benjamin Duhamel, c'est l'homme qui ce soir va mettre sur le grill Valérie Ayé et Jordan Bardella. Et il est avec nous dans les GG.
Et c'est mieux que les chiffres.
RMC, l'invité des grandes gueules.
C'est à 21h ce soir. C'est le duel qu'on a quand même envie de voir. La tête de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella, face à la tête de liste de la majorité, Madame Valérie Ayé.
Benjamin Duhamel sera l'arbitre. Bonjour Benjamin.
Olivier, bonjour.
Ce soir sur BFM TV à partir de 21h, c'est le coup d'envoi vraiment des européennes.
Oui, exactement, parce que jusque-là, on a une campagne qui est en partie, je ne vais pas phagocyter, mais comment dire, qui s'éloigne un petit peu des problématiques européennes. On a beaucoup parlé de la question du Proche-Orient, on a des listes qui n'étaient pas tout à fait composées. Là, vraiment, on est à un peu plus d'un mois du scrutin et on est surtout dans un moment politique qui est très intéressant pour les deux participants. On a d'un côté Jordan Bardella, dont on dit qu'il fait une drôle de campagne, qui prend pas beaucoup de risques. J'ai lu cette citation dans Le Parisien, on dit que c'est la stratégie du lutteur huilé, voilà, qu'on n'arrive pas à attraper parce que tout glisse sur lui.
Alors, en même temps, il est très haut dans les intentions de vote.
Et il est effectivement très haut dans les sondages, donc ce soir, ce sera l'occasion pour lui, voilà, de voir ce qu'il a dans le ventre sur tous les sujets qu'on va aborder, Ukraine, immigration, écologie, agriculture. Et puis pour Valérie Ayer, là c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire qu'elle est dans un moment où elle est pas très loin de se faire dépasser par Raphaël Glucksmann, le troisième homme. Il faut qu'elle démontre qu'elle a la capacité d'être à la hauteur dans un face-à-face. C'est la première fois qu'ils seront l'un contre l'autre dans un,
ils se connaissent
sur
pas.
Un plateau télé. Ils se connaissent pas. Ils sont tous les deux parlementaires européens, et donc ça va être intéressant de voir évidemment non seulement ce qu'ils ont à se dire sur tous les grands sujets européens, mais cette opposition de style, parce qu'on a d'un côté un Jordan Bardella qui est hyper habitué à tous les débats politiques. Il avait débattu face à Gérald Darmanin, plusieurs fois face à Gabriel Attal. Valérie Ayer est plus novice en la matière. Donc voilà, de ce point de vue-là, moi je suis très
mais
curieux.
Est-ce que finalement Bardella n'a pas plus à perdre que Valérie Ayer ce soir? Parce que Valérie Ayer est, on va dire, un peu arrive en challenger dans ce match.
Ah, je suis totalement d'accord. Je pense que, et d'ailleurs, c'est un argument qui revient pas mal quand on discute avec des gens de la majorité, qui disent au fond, il suffit d'un petit moment où Valérie Ayer peut mettre en difficulté Jordan Bardella pour que, à partir du moment où tout le monde s'attend à ce qu'il soit meilleur, qu'on se dise, ah bah, en fait, elle est peut-être pas si mauvaise en débat. Maintenant, attention, la réalité, c'est que Jordan Bardella est parmi sans doute les plus roués en débat, a un sens de la répartie qu'on connaît.
Il marche sur l'eau, là, en ce moment.
Il marche un peu sur l'eau, et politique jusqu'au bout des ongles. Donc, pas facile non plus pour elle d'être capable de se confronter à cette bête politique.
Frédéric Farah,
Alors comment on arbitre ça?
Eh ben c'est pas évident. On arbitre déjà. Bon, franchement, c'est pas moi qui fais la qualité du débat. Il faut qu'il y ait des échanges de qualité. Il faut pas qu'il s'invective. Là aussi, ça c'est une difficulté pour Jordan Bardella. Il faut pas lui face à une femme qui a moins d'expérience qu'il. Peut-être soit trop dur. Je pense qu'on n'aborde pas, quand on est Jordan Bardella, le débat de la même manière que quand on est face à Gérald Darmanin ou Gabriel Attal, où au fond, il y a l'impression qu'on est à peu près au même niveau. Moi, ma feuille de route, si j'ose dire, c'est de faire en sorte que ce soit équilibré, de faire en sorte, pour le coup, qu'on puisse vraiment parler d'Europe. Mais pas l'Europe, je pense aux auditeurs et téléspectateurs, pas l'Europe ennuyeuse. L'Europe qui a des conséquences sur la vie quotidienne.
Ah oui, bah alors,
le pouvoir d'achat, la question du nucléaire, la question de l'Ukraine, la question de l'immigration, le pacte migratoire.
Oui, mais
ce qui est intéressant, c'est que tous les opposent là-dessus.
Mais précisément, c'est ça qui est un peu difficile pour l'un et pour l'autre. Parce que, effectivement, ça doit rester un débat européen. Madame Ayer est très connaisseuse de ces dossiers, mais justement, de ces dossiers ennuyeux, ce petit côté techno. Et monsieur Bardella, on va pas dire que l'Europe, il se lève tous les matins en pensant à l'Europe.
Non.
Voilà, je pense qu'il se rase plutôt en pensant à autre chose qu'à l'Europe.
Ah bon,
et donc,
bon, à quoi
les dossiers européens, il les voit sous un angle national. Donc, effectivement, si Bardella ce soir interprète les sujets européens que Madame Ayer va mettre sur le plateau d'un point de vue national, c'est quand même lui qui risque de remporter la mise.
Après, effectivement, Jordan Bardella, de toute façon, c'est sa stratégie depuis le début de la campagne,
a
tout intérêt à nationaliser le scrutin. C'est-à-dire que quand on parle d'immigration, plutôt que d'aller sur les subtilités du pacte migratoire, de plutôt dire, ah mais regardez, on a vu ce qui s'est passé à tel endroit avec quelqu'un qui était en situation irrégulière. Bon. Après, dans chaque problématique européenne, il y a un peu de national et il y a un peu de sujet européen à nous, pour le coup, de faire en sorte que la discussion se passe bien. Et j'ajoute qu'il y aura évidemment des questions d'actualité au début qui permettront de traiter, là, pour le coup, les sujets, ce qui se passe à Sciences Po cet après-midi, la question de la violence des mineurs. Et puis, à la fin, il y aura cette petite surprise, je sais pas si le mot est bon, mais chaque candidat aura une carte blanche. Et pour le coup, moi, je ne sais pas quelle est la carte blanche qui a été choisie par Valérie et Jordan Bardella. Eux-mêmes ne savent pas quelle est la carte blanche choisie par l'adversaire. Donc là, ce sera aussi une façon pour eux de mettre en avant le sujet de leur choix.
Bruno Français.
J'ai lu que en fait la liste Renaissance n'était pas finie de monter, que normalement demain ils étaient en séminaire pour définir les
contours. Pas la liste,
hein. Ils parlent de mettre Bayrou et Édouard Philippe en queue de liste, comme nous on fait aussi chez les syndicalistes, on met toujours les têtes de gondole qui veulent pas être élus enfin, mais pour faire voir qui c'est qui est quand dans la liste. Et moi je trouve ça un peu inquiétant parce que je sais que la liste EFI non plus n'est pas sortie. Bardella, je crois que la scène est sortie il n'y a pas quelques jours.
Bardella est sorti hier. Ouais.
J'ai vu Europe Écologie Les Verts.
Ça s'est fait, c'est sorti.
Et Glucksmann.
Et LR aussi. Et LR, c'est sorti.
Et chez Bardella, parce qu'il avait dit oui, il y a Malika Sorel qui est venue. Il y a
numéro 2, Mathieu Vallée aussi, l'ancien policier.
Et tout. Alors, j'ai pas vu.
Numéro 2, Malika Sorel. Ouais. Vallée est assez bien placé.
Oui, il est 6 ou 7e, je crois.
Ce qui était étonnant sur la liste d'hier, c'est qu'il y avait tout un débat sur le fait de savoir s'il fallait que Thierry Mariani, ancien ministre de Sarkozy,
finalement, il y est.
Allait être ou non sur la liste, allait être reconduit compte tenu de ses positions
pour
la Russie.
Il a été reconduit, il est 9e sur la liste, ça veut dire que Jordan Bardella est prêt à prendre le risque. Précisément, ça fera aussi l'objet
justement,
d'une des thématiques du débat. il faut pas être grand clair pour imaginer que Valérie Ayer va aller taper très fort sur le thème, les ambiguïtés avec Poutine, les votes au Parlement européen. Ouais. Et là, c'est vrai que pour le coup, Jordan Bardella lui a donné une cartouche en laissant Thierry Marie sur la liste.
Jordan Bardella, sa stratégie, il a sans doute raison, parce que ce sont des élections intermédiaires. C'est de transformer ces élections en référendum pour ou contre Macron. Il pense qu'il voit, les sondages comme nous, hein, Macron est très impopulaire.
C'est ce qu'a dit Le Pen hier.
En fin de règne, même s'il reste encore deux ans et demi, donc c'est compliqué. Il n'y a pas de dynamique Macron. Et Valérie, il peut rien. Elle subit ça aussi.
Elle est plombée par Macron.
Bardella, son intérêt, c'est de tirer cette campagne vers ce qui se passe en France et vers Macron.
Mais en fait, c'est pour ça que, de façon contre-intuitive, personne ce soir ne se dit qu'ils vont aller convaincre l'électeur adverse d'aller chez eux. C'est un sujet de mobilisation interne. Jordan Bardella, il essaye de se dire, il mobilise, il parle à son camp en disant, au fond, ne vous abstenez pas, ne vous dispersez
pas.
Mais c'est pas encore gagné. Et Valérie Ayer, ils ont un sujet très simple à Renaissance. Toute une partie de leur socle électoral, de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2022, ne veulent pas aller voter et ne sont pas prêts à voter pour Valérie Ayer. Si toute une partie de ceux qui, en l'état, se disent, oh là là, on n'y va pas, sont remobilisés, bah déjà ça lui permettra de progresser. Donc en fait, de ce point de vue-là,
on est à quoi dans les sondages, il y a 15 points qui est quasiment différence.
Le double. Aujourd'hui, si de mémoire, il y en a plusieurs, mais Bardella monte jusqu'à 32 et Valérie Ayer 16-17. Donc c'est une situation totalement inédite. Le vrai sujet pour Valérie Ayer, c'est de voir si elle est susceptible de se faire rattraper par Raphaël.
Mais précisément aussi, il faut aussi que Bardella et le RN fassent attention. Et je pense que Marine Le Pen, dans le discours qu'elle a eu hier, elle en était bien consciente. Faut pas recommencer comme au régional.
Absolument.
C'est-à-dire, on y est, on va même avoir des régions, etc., à se laisser galvaniser par les. Et est-ce que justement, vous sentez, parce que Marine Le Pen, elle a énormément de bouteilles et elle a toujours la tête froide, mais est-ce que vous sentez que Bardella a la tête assez froide pour conduire à la fois ce débat et cette campagne? Parce qu'on a quand même, quand on voit que la dernière fois, il convoque une conférence de presse et qu'au dernier moment, il répond pas aux questions des journalistes, c'est quand même un petit peu étrange.
Je pense que Jordan Bardella a été habitué à être au fond dans une sorte de trajectoire ascendante. On disait qu'il est très talentueux. On se posait même la question de savoir si éventuellement, si Marine Le Pen était empêchée en 2027 sur le plan judiciaire, il pourrait pas la remplacer. Donc pour lui, l'enjeu, c'est de gérer des séquences où, de fait, parfois, il fait des erreurs, ou parfois, il a un coup de fatigue. C'est ce qui avait été dit pour effectivement justifier le fait qu'il ne répondait pas aux questions des journalistes. Parfois, dans des interviews, on a tous... entendu des moments où il était un peu plus hésitant sur les ventes au Parlement européen, sur le fameux Jean-Marie Le Pen.
Et face à Glucksmann sur France Inter, il a bugué un peu.
Face à Glucksmann. Donc voilà, c'est aussi de pas tomber dans une sorte de péché d'hubris ou d'excès de confiance pour Jordan Bardella.
Et toi qui suis ça depuis, vu que c'est ton taf, mais en plus parce que t'es à fond dedans, mais tu crois pas que la campagne commence juste maintenant? Parce que moi je vois quand même, aujourd'hui, moi quand j'entends parler n'importe quel parti, tu sens qu'ils parlent pas de ça. Ils sont là-dessus en disant ouais, c'est ça, mais ils parlent pas de ça. Ils parlent de ce qui se passe chez nous. Ils essaient de raccrocher les wagons avec d'autres trucs. D'accord. Mais par contre, j'ai l'impression que la campagne va commencer maintenant. Parce que après, moi, je suis. Alors, c'est pas moi qui vais voter Renaissance déjà. Ça, c'est sûr. Je vous l'avoue. Bon, excusez-moi, je veux pas dire pour qui.
Et c'est bizarre, on te comprend.
Oui. Mais par contre, Valérie, moi, elle me paraît quand même. Moi, j'ai vu des interviews d'elle et je suis la politique à fond. J'ai vu des interviews où je la sens hyper quand même technique et hyper investi dans, elle sait de quoi elle parle en fait. Moi, contrairement à Bardella, qui en plus, tout le monde sait qu'il va à l'Europe que quand il est obligé d'y aller. Elle est une vraie députée. Mais comme Manon Aubry, on n'arrête pas de la déchiqueter en ce moment. Mais Manon Aubry, c'est une vraie députée européenne.
Qui la déchiqueté? C'est Mélenchon lui-même qui la déchiqueté.
Oui,
c'est Rima Hassan qui la déchiqueté.
Parlons de ce sujet.
Et vu que Manon Aubry, on la met un peu plus en avant, qu'elle parle réellement des dossiers européens, parce qu'elle est vraiment pointue.
Mais est-ce que la difficulté, c'est pas très difficile d'européaniser les débats?
Si, parce que à chaque fois, on a été habitué par ailleurs en France, souvent les élections européennes, c'était l'élection où on recasait ceux qui avaient perdu l'élection nationale. Ah ben, c'était systématiquement vu comme des élections de mi-mandat où le pouvoir en place était sanctionné. Bon, après, on est quand même dans un moment et dans une ambiance qui n'est pas la même qu'en 2019. La guerre en Ukraine fait que nécessairement l'enjeu européen est quand même sans doute plus important encore qu'il n'était il y a 5 ans. Et je réponds à ta question, Bruno, sur le fait que la campagne n'a pas commencé. Je suis totalement d'accord. Tous les retours qu'on a, c'est que quand ils sont sur les marchés, même nous dans les discussions qu'on a, les européennes, ça leur passe au-dessus de la tête. C'est pour ça.
Les gens savent même pas quand.
Exactement.
Quel jour.
Là, on rentre dans le dur vraiment. Je dis pas ça pour faire la pub du débat, mais je pense que vraiment ça va contribuer à faire monter la pression. Et en sachant que de toute façon, ça se joue toujours dans les tout derniers jours.
La difficulté, c'est que on a l'impression quand même que Valérie Ayer, même si c'est une députée européenne compétente, a été un choix par défaut.
Bien sûr.
Alors que Bardella, non.
Évidemment.
C'est la différence entre les deux.
Rappelons tous ceux qui ont dit non avant que ce soit Valérie Ayé. Bruno Le Maire a approché non merci. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, non merci. Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, non merci. Donc c'est évidemment un choix par défaut avec ce pari qui était fait, qui était de dire au fond avec Nathalie Loiseau on a fait 22-23, donc avec Valérie Ayé c'est pas un problème. Ce qui là je pense était une erreur stratégique parce que le contexte n'est absolument pas le même. Et donc là, si effectivement ce soir, elle est un peu faible en débat, eh ben ils pourront se mordre les doigts d'avoir mis quelqu'un qui n'assure pas forcément face à Jordan Bardella. Mais rien n'est fait.
Ce soir, 21h, c'est Benjamin Duhamel qui va arbitrer, orchestrer le duel entre Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Valérie Ayé pour la majorité actuelle. C'est le premier grand débat de ces élections européennes. Intérêt ou pas à propos de ces élections, à votre avis, qui est le favori? Est-ce qu'on prête à Bardella un score bien au-delà des 30%, venez en parler avec nous au 32-16 dans les GG, dans les Grandes Gueules. Et si Bardella l'emporte, est-ce que ce sera la victoire du Rassemblement National, la victoire de Marine Le Pen ou la victoire de Bardella qui pourrait l'emmener peut-être vers d'autres combats? Eh ben, on va en parler bien sûr encore avec vous au 32-16 et avec Benjamin Duhamel.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules avec un collègue de bureau aujourd'hui dans les Grandes Gueules. C'est Benjamin Duhamel qui est avec nous parce que Benjamin, ce soir, on va orchestrer sur BFM TV le duel entre Jordan Bardella, tête de liste Rassemblement National aux élections européennes, et Valérie Ayé, tête de liste de la majorité. On verra comment ça va se passer. Il y en a un qui a beaucoup à perdre et l'autre plus à gagner. Ouais. C'est Valérie Ayé, qui en ce moment est challengé par Raphaël Glucksmann, alors que Jordan Bardella caracole en tête des intentions de vote. Du coup, c'est vrai que si le 9 juin prochain, rappelons qu'il n'y a qu'un tour aux élections européennes, si le 9 juin prochain il est très largement au-dessus, comme lui prêtent les intentions de sondage, des 30%, commencera à se poser la question de peut-être la présidentielle va commencer juste après les européennes. Benjamin Duhamel, en particulier au Rassemblement National, de se dire Marine ou Jordan, non?
Ce qui est sûr, c'est que beaucoup vont avoir ses ambitions pour lui. Et notamment, on l'a vu au moment de, vous souvenez, ce qu'on appelait les rencontres de Saint-Denis, quand le président avait rencontré tous les chefs de l'opposition. On avait entendu beaucoup de gens dans la majorité dire, dis donc, vachement solide, Jordan Bardella, il a vachement travaillé. Ce qui avait été interprété au Rassemblement National comme une façon d'essayer de mettre un coup entre les deux. Après, moi, pour avoir suivi le RN sur le terrain pendant quelques années, moi, je crois pas beaucoup à la possibilité que Jordan Bardella s'émancipe parce que je pense que, d'abord, même si Jordan Bardella est patron du parti, l'appareil est tenu par Marine Le Pen. Exactement. Déjà, ça c'est quelque chose là. Et je pense aussi que Jordan Bardella a parfaitement en tête toutes les velléités depuis 20 ans à l'extrême droite d'émancipation des numéros 2, que ce soit Bruno Maigret, Florent Philippot. Et il sait très bien qu'à chaque fois, il se plante. Franchement, Jordan Bardella, il a 28 ans. Marine Le Pen, si elle est candidate en 2027, ce sera vraisemblablement sa dernière candidature. Si elle gagne, évidemment. Donc moi, je ne vois pas beaucoup Jordan Bardella essayer de lui griller la politesse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on scrutera...
Elle avait dit, si jamais j'arrive à l'Elysée, sera Matignon
exactement.
Pour Bardella.
Ce qui est sûr et ce qui sera intéressant de regarder, notamment sur les scores, c'est de voir à quel point Jordan Bardella a cette capacité à parler à des électorats auxquels Marine Le Pen ne parle pas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit... Ce qui est intéressant,
l'électorat de droite.
Exactement, électorat de droite, les cadres, les retraités qui jusque-là avaient peur de Marine Le Pen, se disent au fond avec Marine Le Pen ça va être la banqueroute, nos économies elles vont fondre, ça va être l'instabilité. Ils ont moins peur de Jordan Bardella. Et c'est vrai qu'en ça ils font un binôme complémentaire assez redoutable.
Mais c'est ça, moi, ce qui m'impressionne en regardant notamment les sondages, il y a des déplacements. Par exemple, pendant longtemps, les retraités ne votaient pas RN, ils ont voté Macron, ils ont d'ailleurs sans doute permis à Emmanuel Macron de rester président, mais là, ils sont en train d'aller vers Bardella. Donc en fait, Bardella-Le Pen, le tandem, remplace à droite.
Absolument. Oui. Non, mais il y a ce
déprofète. Et la droite va pencher de plus en plus vers
la
stratégie. Non, mais la droite va disparaître.
La stratégie de Marine Le Pen, elle date pas d'aujourd'hui. C'est pas depuis qu'elle a rencontré Bardella qu'elle s'est dit, tiens, si je mettais en place cette stratégie, c'est une stratégie ancienne, qui n'est d'ailleurs pas une stratégie, qui est une conviction qu'elle a, qu'il fallait nettoyer les écuries d'Augias, qu'il fallait débarrasser le FN de ses vieux relents antisémites, racistes, etc. Ce qu'elle a fait. On peut pas faire mieux que de virer son propre père et voir de quasiment le jeter aux oubliettes du parti. Et sa stratégie avec Bardella, c'est de préparer en douceur, vraiment en douceur, dans un glissement lent mais profond, la métamorphose du RN en étant le parti de droite de la droite populaire et nationale que je suis désolée qu'une partie de l'opinion française attend. Et cette partie de l'opinion française, elle l'attend parce qu'elle n'a pas été compensée par les autres partis. Donc le succès du Rassemblement National et de la pensée stratégique de Le Pen, que beaucoup de gens pendant longtemps, y compris des journalistes politiques, ont méprisé, alors que c'est une femme qui a un grand sens politique, qui voit très clair, alors peut-être que, bien sûr, mais comme Mélenchon. Mélenchon, à sa façon, il a un sens politique. Il se plante complètement dans sa vision, hein, parce qu'il n'a rien compris à ce que veut l'opinion française. Mais Mélenchon aussi, là, c'est quelqu'un qui a une vision. Les sbires derrière n'en ont pas. Oui. Alors qu'elle tient, exactement comme a expliqué Benjamin, elle tient le fait qu'elle ait choisi un petit jeune, c'est pas pour rien non plus, parce que sa jeunesse fait qu'elle le tient.
Aussi, oui.
Oui, mais elle le tient par sa jeunesse. Il aurait 40 ans, il aurait plus d'expérience. Mais alors, on va pas se mentir. Il est même pas sorti de la fac avec un diplôme,
Bardella. Il sera pas là ce soir, c'est Gabriel Attal, mais comme Gabriel Attal, il va peser. Enfin, c'est un peu long parce que Gabriel Attal, il a été nommé aussi à Matignon pour faire gagner les européennes à la majorité. Pour l'instant, quand on regarde les intentions de vote, il n'y a pas d'effet Attal.
Vous vous souvenez, l'arme anti-Bardella. Ouais, alors ça l'énerve quand tu dis ça, parce que moi, quand je l'ai interviewé il y a 15 jours et que je lui dis alors l'arme anti-Bardella est un couteau sans lame, il n'a trouvé comme réponse que de me dire mais qui dit l'arme anti-Bardella? Qui? Bah, tous les conseillers du président de la République, quand on les interrogeait au mois de janvier, quand il était nommé. Et c'est intéressant de voir le changement de stratégie, parce que pendant, depuis janvier, c'était de dire le débat avec Bardella, non, moi je ne fais pas, ce n'est pas de mon niveau, je suis chef de la majorité. Moi, je veux bien débattre avec Marine Le Pen. Je ne suis pas candidat aux européennes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine? Gabriel Attal a fait savoir qu'il était OK pour débattre avec Jordan Bardella.
BFM TV est OK pour.
On est complètement OK.
Parce que pour l'instant,
l'effet
Attal,
mais parce qu'il sait qu'il n'y aurait rien de pire pour lui si le 9 juin au soir, Valérie Ayer fait une contre-performance, qu'on dise Gabriel Attal s'est planqué. Parce que si il donne l'impression vis-à-vis du président, vis-à-vis de la majorité, qu'il a essayé de se sauver lui, ça aura un effet désastreux, même si il faut aussi dire, s'il débat avec Jordan Bardella et qu'ensuite ça n'a pas d'effet, l'effet sera pas
terrible. Mais justement, ça a une question là-dessus, sur la question de l'identité européiste de la Macronie. Puisque vous avez rappelé que toutes les têtes de liste qu'on aurait pu avoir ont dit non, alors qu'on a un président de la République qui parle presque plus de l'Europe que de la France, comment on comprend que le parti, la majorité, qui devrait être le parti européiste par excellence, est contraint, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour Madame Ayer, enfin, ils auraient pu avoir une figure bien plus exaltante de l'Union européenne. Ils n'y arrivent même pas eux-mêmes. Comment ça se fait? Comment vous le comprenez?
Et ça se fait que les principaux leaders de la majorité préfèrent rester ministres, préfèrent, étaient légèrement en retrait, Julien Normandie, Jean-Yves Le Drian, n'ont pas forcément envie d'aller prendre le risque de faire 16 ou 17%. Mais c'est vrai que le paradoxe est absolu. L'ADN le plus pro-européen, la colonne vertébrale du macronisme, c'est l'Europe. Et à la fin, c'est quelqu'un comme Valérie Ayer qui, effectivement, n'est pas une personnalité de premier plan peut l'être Jean-Marc Bardella.
Du coup, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Emmanuel Macron, mais sur ses convictions européennes, il y a une constance. C'est-à-dire qu'après, on est d'accord ou pas.
Beaucoup plus que Jordan Bardella.
Beaucoup plus que Jordan Bardella. Ouais. Et néanmoins, la liste qu'il soutient est à 15, 16 ou 17% dans les sondages. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rejet de l'Europe actuelle? La pauvre Valérie Ayer va en subir les conséquences. On voit bien que les Français, il y a eu la crise agricole, il y a le problème de l'immigration, on voit les Français ont l'impression que les choses ne sont pas maîtrisées.
Non, il y a le référendum de 2005.
Il y a aussi l'économie, on en parlait en off avec Frédéric Farah, aujourd'hui la croissance américaine cartonne, la croissance chinoise et la croissance européenne est plutôt faible et on est dans un marché qui voilà. Donc ça aussi ça pèse aussi dans le débat. J'imagine que vous allez en parler ce soir.
Non, ça pèse, je crois qu'il y a le fait que le président est impopulaire. Ne sera plus à l'Élysée dans un peu plus de 3 ans et donc il y a un effet sanction. Je pense qu'il y a effectivement la difficulté à porter un certain nombre de solutions avec toujours cette idée que l'Union européenne n'est pas assez efficace, même s'il faut quand même dire qu'il y a des choses qui ont été réalisées. Le Covid, l'emprunt, l'Europe de la défense qui n'est pas...
Le soutien à l'Ukraine. On a oublié ça, mais... personne n'avait imaginé que les Européens se mettraient d'accord pour soutenir l'Ukraine.
Que l'Allemagne, dans les jours qui ont suivi l'agression russe en Ukraine, décide d'investir davantage dans son armée, d'envoyer un certain nombre d'abandonner le gaz russe. Donc, il s'est quand même passé des choses. Et puis, il y a aussi, ce qui est intéressant avec la progression de Raphaël Glucksmann, une sorte de lente décomposition de ce qui avait fait le succès d'Emmanuel Macron. Parce que en se déportant à droite, Rachida Dati, la réforme de l'assurance chômage, il y a un certain nombre d'électeurs macronistes de gauche qui se disent « bon, on a envie de se faire plaisir ».
Bien sûr, bien sûr.
C'est ça. Et Clément Beaune, j'ai vu, a eu cette expression, il dit « attention au vote plaisir ». Je pense que c'est très important. Il y a des gens qui, depuis 2017, votent pour Macron à chaque fois. Et là, ils se disent de toute façon, Macron pourra pas se représenter. L'élection européenne, ça veut pas dire que Raphaël Glucksmann va arriver au pouvoir. Donc, on se fait plaisir.
Et c'est pas Mélenchon, Glucksmann.
Et c'est pas Mélenchon. Donc, il se passe sans d'effet de vase communicant entre
l'électorat macroniste et Raphaël Glucksmann. Ça en dit long aussi sur l'ignorance politique des Français, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'ensemble des directives européennes qui sont transposées dans le droit national et qui nous plombent aussi dans bien des domaines. Donc, attention à prendre ça pour une élection plaisir, comme ils disent.
Non, mais quand les gens ont découvert que, tiens, les normes européennes s'imposaient aux normes nationales. Alors, j'ai l'impression, où les gens habitaient? Cour de cassation 1975, arrêt Jacques Vabre, qui indique que pour le droit privé, c'est l'Europe. Décision Nicolo, Conseil d'État 89, le rappel. Donc, j'ai envie de dire, mais que se passe-t-il? Cette affaire est là.
Il se passe 2005 où on a dit stop, mais personne n'a voulu nous écouter.
Les Français ont voté non au référendum de 2005.
Oui, je sais. Et ça, c'était très bien. Et c'était très bien.
Voilà. T'as dit non à l'époque?
Oui.
Moi, j'ai dit non.
Et moi aussi.
Ah bon, ça va. Voilà.
Oh là là, quelle unanimité.
Moi, je votais pas.
Mais
c'était déjà un problème.
Eh ben oui, mais ça, c'est ça la vraie rupture. La vraie rupture avec l'Europe, elle est là parce que on pouvait avoir envie.
Moi, Maastricht aussi.
Moi aussi.
Ben voilà.
Vous avez dit non à chaque fois, quoi.
On dit non à tout, nous.
Mais l'Europe telle qu'elle est montrée aujourd'hui, la bataille de la communication aujourd'hui sur l'Europe, ceux qui l'ont gagnée, c'est les agriculteurs et c'est le Rassemblement National à travers des faits qui sont, regardez, l'Europe nous empêche de travailler, les agriculteurs, à tort ou à raison, le Rassemblement National en disant, regardez la submersion migratoire, regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Italie. Après, on a réussi à vendre, à tort ou à raison, regardez, quand on prend des décisions d'expulsion ou des décisions nationales, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous empêche d'agir. Donc en fait, aujourd'hui, on a vendu l'Europe comme une entité qui empêche de vivre. Et donc la bataille de la com là-dessus, c'est Bardella qui l'a gagné. Ce qu'il faudra que réussisse à faire Madame Hayer, c'est de dire, regardez ce que l'Europe aussi permet de faire. Regardez qu'on ne peut être très fort qu'avec l'Europe. Le combat, il va être là ce soir.
Là-dessus, deux exemples.
Plus facile de dire non que de dire oui et d'accepter.
Sur la bataille de communication, c'est vrai. Après, deux exemples précis. La PAC. Jordan Bardella en dit pique-pan dans la politique agricole commune. Il a voté la PAC. Il n'a pas voté le budget, mais il a voté le principe. Deuxième exemple sur l'immigration, submersion migratoire. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, elle fait campagne en disant blocus naval, épouvantable, l'Europe nous laisse seuls. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? 450 000 travailleurs étrangers qu'elle veut régulariser. Ouais. Et elle soutient le pacte migratoire, qui est cette décision qui a été prise pour effectivement réguler l'immigration à l'échelle européenne.
Qui n'a pas été votée par Glucksmann d'ailleurs.
Qui n'a pas été votée
par les socialistes.
Absolument, c'est-à-dire que l'extrême droite dit c'est trop laxiste et Raphaël Glucksmann dit c'est inhumain. Donc sur la communication, c'est vrai, mais il y a aussi toute une série de décisions qui montrent que parfois, il y a un décalage entre les slogans quand on est dans l'opposition et ce qu'on fait quand on arrive au
pouvoir. Oui, mais le RN répond toujours.
C'est classique.
Mais le RN répond toujours qu'ils ne sont pas dans le groupe de Meloni, ils sont dans le groupe de Salvini.
Oui, Salvini qui appartient au gouvernement de.
De Meloni, mais Salvini qui prône une autre politique sur les questions migratoires.
Oh. Et avec des candidats terrifiants dans la Ligue du Nord. Vanacci, par exemple.
Qui est-ce?
Alors, ce candidat, il est terrifiant.
Un ancien général.
C'est un ancien général, qui est candidat pour les européennes. Alors, lui, il tient des discours de dingue.
Homophobe, raciste,
ouvertement. Il explique que aussi pour les élèves en situation de handicap, il faut les mettre à part. Et il vend des bouquins dans tous les sens. Et il dit, on le voit avec Salvini, qui l'encourage. Enfin, ce type, quand je le lis dans la presse italienne, etc., il est effrayant, en fait.
Tu penses à personne en France? Il y en a peut-être qui lui ressemble un peu en France.
Ah bon? Non, je vois pas du tout. j'ai pas d'idée.
Dans tous les cas, le débat est ce soir. Il est sur BFM TV.
21h.
21h.
On a regardé les grands enjeux avec l'ami Benjamin Duhamel. C'est en direct, ce sera à suivre bien sûr. Jordan Bardella.
Il y aura de la castagne.
Face
mais évidemment.
Et ben Valérie Ayé. Hein. Fais pas la connexion avec Gandbox.
Ça a pas très bien réussi à la personne qui avait fait la dernière fois. Je vais m'abstenir là-dessus.
Alors ça c'est une référence que vous retrouverez sur YouTube, c'était Paul Amar.
Paul Amar, Bernard Tapie, Jean-Marie Le Pen.
Voilà, Bernard Tapie, Jean-Marie Le Pen.
Ça n'a pas réussi à Paul Amar.
Non, ni à Bernard Tapie, Jean-Marie
Le Pen. On se retrouve demain entre 9h et midi, qui sera là dans les GG, l'éducateur Étienne Liebig, l'avocate Julie Martinez, Antoine Diers, consultant auprès des entreprises. Mais
Julie Martinez, c'est la petite nouvelle qu'on vous fait découvrir.
Le débat continue sur RMC et RMC Story. avec Estelle Denis. Bonjour ma chère Estelle.
Salut Alain, salut les GG. Bruno, vous savez de quoi on va parler ?
Oui, j'imagine un peu Estelle.
Eh ben oui, nous allons parler de Bruno Le Maire qui va convoquer le président de la SNCF. L'accord sur les retraites.
Ouais,
il
tremble.
Bruno Le Maire joue chat injuste. Le ministre de l'économie doit-il taper
Farandure ou Farandou ?
Est-ce qu'il doit d'abord faire une fiche de lecture sur le dernier roman de Bruno Le Maire avant de venir ?
Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, ce matin, il était très énervé chez Apolline de Malherbe. Nous y reviendrons dans un instant dans Estelle Midi. On va parler des chiens errants, ça va te parler, Barbara. Dans l'Aveyron, on a le droit de tuer les chiens errants par arme à feu.
Effaré.
Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est choquant ?
Non, mais c'est honteux.
Les chiens errants, ils n'ont rien à faire.
Les chiens errants, mais si, pourquoi les chiens errent justement ?
Parce que les maîtres n'ont pas stérilisé leurs chiens.
Voilà. Bah oui. Qu'est-ce que je dis sur l'aide à la stérilisation ? Je le dis. Il faut aider. Il y a déjà des dispensaires.
Moins de troupeaux.
Non, mais ça, c'est un mensonge parce qu'il y a des dispensaires. Il y a des dispensaires qui stérilisent gratuitement. Néanmoins, il faut davantage de campagne d'explication et d'aide de l'État.
Appelle-nous 32-16 midi et demi. À 13h, le gouvernement qui veut mettre fin au HLM à vie. Les gens qui sont HLM, oui.
Bonne idée.
Vous avez plus de 65 ans, vous êtes en HLM jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc,
surtout, tes enfants sont partis,
non,
etc.
Quand
t'es
dans un 4 pièces, pièces,
tu gardes un grand 4 pièces.
À 65 ans, c'est pas normal.
Allez,
on doit te mettre dans un plus petit studio.
Allez hop, la vioque, dans 20 mètres carrés.
Faut-il ?
Barbara, c'est avant tout l'humanisme.
Écoutez-moi. Est-ce qu'il faut mettre fin au HLM à vie ? Est-ce qu'il faut virer les locataires qui dépassent le plafond ?
Mais oui,
mais il y a des gens qui dépassent totalement le plafond, c'est indécent. Enfin, chat noir, échelle, numéro 13. De plus en plus de Français sont superstitieux. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Je regarde pas le PSG, moi. Je regarde pas le PSG à cause de ça, parce que je regarde, ils perdent, ils font des nuls.
Et tu les as regardés hier ?
Non, non.
Et ils ont perdu quand même.
Oui,
mais moi, la superstition, je comprends.
Les superstitieux ?
Mais j'ai grandi avec une mère hyper superstitieuse.
Mais genre quoi, le pain sur la table, tout ça ?
Non,
le parapluie ouvert,
non, c'est pas ça.
Le chapeau sur le lit.
Non, c'est pas ça. Ma mère disait par exemple, si t'as une nouvelle chemise blanche, tu vas chez des amis, ne dis jamais qu'elle est nouvelle, parce que qu'est-ce qui va se passer ? On va te renverser de la sauce sur la chemise.
Par contre, Estelle, il ne faut pas dire chat noir, hein, parce que les chats noirs en Angleterre, par exemple, c'est au contraire signe de chance.
Oui.
D'accord ? Donc, il ne faut pas mettre ce genre d'étiquette.
Tu veux être chroniqueux chez nous, non ?
Non, parce que moi, mon chat, j'ai un de mes chats qui est noir, et c'est franchement la plus douce et la plus gentille.
C'est le plus long teasing d'émission qu'on ait.
32-16 pour agir avec Estelle.
Il est midi 32.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.